Il est 10h36, un article ce matin dans Le Devoir qui est très, très troublant. Je vais nommer le journaliste parce qu'en plus, je vais le citer. Donc, Alain McKenna qui écrit « Un locataire qui conteste une hausse de loyer auprès du Tribunal administratif du logement du Québec n'est pas le seul à pouvoir consulter son dossier sur le site web de l'organisme. N'importe qui, armé d'un tableur Excel, un peu de patience, peut récupérer les données de milliers de dossiers de locataires actuels ou passés, laissés sans aucune protection. C'est très, très troublant. C'est très épeurant. Je ne sais pas si vous, chers auditeurs, vous avez déjà vécu un vol de vos données personnelles. On se souvient tous qu'il y a des millions de Québécois qui l'ont vécu avec les caisses pop il y a deux étés, je crois, si ma mémoire est bonne. C'est même pas fini, cette affaire-là, encore, de toute façon. On parle de ce sujet hautement troublant avec Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité. Salut Steve.
Bonjour Marie-Claude.
Alors Steve, tout d'abord, là on parle de gens qui par exemple contestent leur hausse de loyer ou est-ce qu'on parle aussi là, de contestation, là, de moisissure, de vermine, de toute forme de contestation fait l'objet d'un dossier qui est accessible à tout le monde?
Au tribunal administratif des logements du Québec et tous ces traitements, et veut dire l'évolution d'un dossier a été vraiment découvert et justement confié à Alain pour être capable à ce moment-là de mettre en lumière que c'est une pratique, malgré que ces documents, ce sont des documents légaux qui, selon la loi, doivent être publiquement accessibles.
C'est très important de le dire, hein? Ça, c'est
oui.
Hyper important de le dire. Là, au départ, c'est pas une erreur là, de gouvernementale ou autre. C'est public, c'est voulu. Mais tout à l'heure, on viendra à de quelle façon ça peut être pas trop public.
Exactement, parce que là, on peut faire la comparaison facile, Marie-Claude, avec les dossiers de cours, que ça aussi, c'est des éléments publics, mais il y a quand même un ticket modérateur qui est appliqué, que ce n'est pas à volonté et à répétition, à grande fréquence, qu'on peut aller consulter ces dossiers-là. Mais ils sont là, pareil, ils sont publics. Ici, la différence avec les dossiers qui ont été trouvés au tribunal administratif, c'est que du logement, c'est que cette fréquence-là peut être quand même assez élevée pour être capable d'aller chercher l'information. Et à ce moment-là, comme tu as dit, Marie-Claude, d'entrée de jeu, c'est de documenter davantage d'informations. Et le point qui me fatiguait le plus, c'est que ça vient à ce moment-là bonifier toute autre fuite d'informations. Parce que le jeu sur le marché noir, c'est d'avoir, pour quelqu'un puisse avoir une bonne réputation de revendeur d'informations, c'est d'avoir de l'information vérifiée. Donc, quand on a du matériel comme ici, facilement accessible en masse pour, à ce moment-là, dans un contexte et une intention de revente dans un contexte criminel, ça va aller dans le sens qui va pouvoir dire, ben voici, c'est de l'information qui vient d'un domaine de la justice, donc on peut facilement interpréter que tout a été bien vérifié dans ce domaine-là.
C'est ça, que ça serait du bonbon. Maintenant, voilà. Qu'est-ce qui se retrouve dans ces données, à supposer que je porte plainte auprès du tribunal parce que mon propriétaire veut trop m'augmenter ou refuse de faire les travaux nécessaires pour justement éliminer moisissures ou vermine ou coquerelles ou autres. Qu'est-ce qui se retrouve dans mon dossier qui pourrait intéresser les hackers?
Ben, c'est évidemment le nom et toutes les informations nominatives de la personne avec son adresse, mais encore aussi l'avocat, ses numéros pour le rejoindre, le téléphone de bureau, le cellulaire, le fax, et dans certains échanges, parfois des courriers électroniques qui y paraissent. De cette manière-là, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que facilement une campagne, exemple, de sollicitation, de pourriel ou bien de fausse représentation, le cybercriminel a tous les éléments nécessaires pour se créer un personnage avec lequel il va avoir toute crédibilité voulue. Donc, il va pouvoir se présenter, appeler la personne qui est en litige ou qui a été en litige, parce qu'il y en a de ces informations-là c'est des cas passés, mais il y en a que c'est des cas à venir. Fait qu'il pourrait exploiter l'opportunité de dire, ben regardez, moi je suis un représentant de tel avocat, j'ai été mandaté pour faire un deal avec vous, si vous payez la moitié maintenant dans tel compte de banque, ben tout va être réglé. Ça, c'est un scénario là, qui se prêterait très bien. Ça passerait comme de l'eau à la rivière. Après ça, quand il arriverait à sa séance officielle avec les juges, etc., ben, il dirait, moi, j'ai payé à moitié. À qui vous avez payé à moitié? Et c'est là qu'on pourrait avoir un arnaque facilement
réalisable. C'est fou, hein, Steve. À chaque fois qu'on parle de ces choses-là, il y a une partie de moi qui est mal de dire on est en train de donner des idées à du monde.
Malgré moi,
je le sais, Steve. J'ai oublié, encore une fois, de donner notre numéro de téléphone parce que je veux que vous participiez à la discussion pour nous dire si vous avez déjà été victime de ce genre de vol de données personnelles et si ça vous terrorise ce qui se passe comme ça du côté du tribunal administratif du logement. 514-790-9850 ou 1-866-790-9850. Vous pouvez écrire aussi à mon adresse courriel marie-claude.lavallée@commercialcogecomedia.com. Ma prochaine question, Steve, est-ce que les propriétaires se retrouvent dans le même genre de risque ou c'est vraiment juste les locataires dans les dossiers?
Bien, les deux parties doivent être représentées, dûment identifiées. Alors oui.
Donc les deux courent un risque. Là.
Tout à fait. Et c'est ça qui est l'enjeu. Et en même temps, j'aimerais apporter la précision. C'est pas de partir en épouvante qu'il y a de l'information publique que là tout le monde va se mettre à s'arracher ça. Mais c'est bien un élément de sensibilisation que attendez-vous qu'il y ait peut-être des situations comme ça, parce que souvent ce n'est pas dans l'immédiat d'une découverte, comme Desjardins à la référence qui était faite au début. Bien, les fraudes, les cas de fraude dans ce cas-là de Desjardins, il y en a été arrivé au cours des mois qui ont suivi les divulgations, mais autant qu'il y a des grosses fuites d'informations dans le passé, que ça a pris 5 ans avant que les cybercriminels se servent de cette information-là de fuite.
Aye.
Donc, c'est un rappel aux gens de porter attention à qu'est-ce qu'on vous sert et comment qu'on vous aborde, parce que ça se pourrait que ça ait une connotation de fraude et vérifier à ce moment-là avec les bonnes sources.
Un peu comme des fois quand on reçoit des courriels qui ressemblent à Post Canada ou qui ressemblent à Vidéotron et qui nous demandent des sous, qui nous demandent de revérifier notre compte, qui veulent vérifier des données de compte qui ne seraient pas bonnes. On jette ça à la poubelle tout de suite. Oui, j'ai reçu ça aussi. Oui. On jette ça à la poubelle immédiatement. Parce que c'est pas la façon normale d'une compagnie ou d'un tribunal comme celui-ci de communiquer avec les gens, c'est pas comme ça de toute façon.
Ça sera par la poste, évidemment. Je dis évidemment, mais c'est dans un air moderne dans lequel on baigne, c'est oui, tout va vite et ce n'est pas des correspondances électroniques. S'il doit y en avoir des correspondances électroniques, ça va être des avis, comme l'Agence du revenu fait. L'Agence du revenu va vous aviser, vous avez une correspondance qui vous attend dans le portail de l'Agence du revenu. Donc, vous devez prendre les mesures nécessaires d'aller vous identifier et authentifier au portail. Et là, puis, vous allez pouvoir consulter la correspondance.
Ouais.
Mais ça n'arrivera jamais directement dans votre boîte à courriel de façon native.
Et nous demandant de donner nos données, justement, à la personne qui nous les demande comme ça, sans qu'on ait...
Pour prouver qu'il vous aide, ben oui.
Ben là, non, ça marche pas. On va s'arrêter pour une petite pause. Je crois que c'est l'heure. Mais je redonne le numéro de téléphone. J'aimerais beaucoup vous entendre là-dessus. 790-9850 dans le 514 ou 1-866-790-9850. Donc, on parle du tribunal administratif du logement qui a des milliers de dossiers sur les locataires, évidemment, et les propriétaires, des gens qui ont porté plainte et qui sont accessibles à tous. C'est normal, c'est légal, mais c'est un petit peu épeurant aussi. On est en compagnie de Steve Waterhouse. On poursuit la conversation tout de suite après ceci. 10h47, on parle donc de cyberpeur, si je puis dire. On parle de ce tribunal administratif du logement du Québec qui publie des dossiers sur son site web, les dossiers des locataires qui ont porté plainte ou des propriétaires. Et c'est accessible. La loi oblige à ce que ce soit accessible, mais accessible trop accessible et même accessible à des gens qui auraient des mauvaises intentions. On est en pleine discussion avec Steve Waterhouse et va se joindre à notre discussion Yannick. Yannick, bonjour.
Bonjour à vous deux.
Alors, que se passe-t-il, Yannick, de votre côté?
Ben moi, c'est juste une petite histoire, une petite tranche de vie, juste pour montrer au monde à quel point que ces informations-là se retrouvent un peu n'importe où. Donc, je suis propriétaire de plusieurs logements et durant ma carrière, j'ai eu des mauvais locataires, donc j'ai dû évincer des locataires qui ne payaient pas ou qui faisaient des dommages dans le logement. Et j'ai passé devant la régie. Et là, souvent, ces locataires-là, ils perdent ou ils se présentent pas. Donc, la régie nous octroie aux propriétaires un dédommagement, les loyers qu'ils nous doivent, etc. Et une date d'évincement, on évince le locataire. Étant occupé, étant à mes affaires, à plusieurs affaires, on court pas nécessairement après les 3 000, 4 000, 5 000 que le locataire nous doit. On passe au suivant. On prend un nouveau locataire, puis la vie continue.
Mm-hmm.
Ben, je vous dis, il y a des agences de recouvrement qui m'ont téléphoné, donc qui ont eu accès à ces dossiers-là, qui voulaient acheter cette dette-là. Ce qui veut dire l'agence de recouvrement me dit, on a toutes les informations, monsieur vous doit, mettons, 4 000 $. Nous, on vous achète la dette, on vous donne 400 $ cash, puis nous, on vous l'achète, puis on va courir après le monsieur, on va le faire le travail pour vous, pour aller chercher ce 4 000 $-là.
Aïe, 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 aïe. Et qu'est-ce que vous avez répondu?
Étant occupé, étant d'autres choses à faire, moi, j'ai trouvé que c'était un 400 $ facile. C'était une compagnie légale. Ils m'ont envoyé un chèque avec le reçu et tout. Et eux, ils achetaient mes dettes que mes anciens locataires me devaient. Quand on va à la régie, cette dette-là, elle est bonne pour 10 ans. Donc, le locataire nous doit cet argent-là pendant 10 ans. On peut recourir après lui pendant 10 ans. Bon. Il y a des agences de recouvrement
qui vous font payer pour payer pour aller chercher l'argent, finalement.
Exactement.
Bon, je veux l'opinion de Steve là-dessus.
Ben, c'est ici, encore une fois, l'utilisation d'informations publiques, mais à des fins mercantiles. Donc, dans ce cas ici, il y a une compagnie qui veut faire une pièce sur les événements qui sont arrivés. C'est-tu dans l'illégalité? Je ne crois pas, mais je vois plutôt que c'est éthiquement questionnable la façon qu'ils s'y prennent.
Oui, et on ne sait pas de quelle façon aussi ils vont vers le locataire qui n'a pas payé. Est-ce que c'est...
C'est normal, c'est une compagnie de recouvrement, fait qu'ils vont prendre toutes les mesures nécessaires.
Oui, c'est ça, mais...
Quand j'ai eu à acheter un numéro de téléphone, utilisé un numéro de téléphone il y a quelques années, il était rattaché à un mauvais payeur, puis j'en ai eu pendant un an et demi à répondre à ces agences de collection qui appelaient systématiquement pour essayer de trouver si c'était encore la bonne personne, puis
aïe,
que c'était pas moi, là.
Ouais.
Fait que c'est pas évident.
Donc, ça serait légal, mais pas nécessairement... enfin, c'est une façon de faire de l'argent. Il y a tellement de façons. De toute façon, je pense qu'à partir du moment où on se fait demander de l'argent sur le web, on devrait se poser des moseuses de questions. Steve, n'est-ce pas?
Et c'est comme l'exemple ici qu'on a. Veut dire, prendre le bottin, ouvrir le bottin, faire de la sollicitation avec l'information qui est là, elle est réputée de façon publique, cette information-là. Fait qu'au même titre que quelqu'un qui consulte justement ses décisions qui sont rendues, ben, il peut s'en servir à des fins, de toutes sortes de fins, mais par contre, c'est peut-être pas correct.
Tout à fait. Bon, ben merci beaucoup de votre appel, Yannick. On passe à Guy, qui a une question pour toi, Steve. Guy, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une petite anecdote, puis peut-être un avis de votre part, M. Steve. Je suis jeune retraité. Je me suis, entre guillemets, inscrit à Je m'inscris Québec là, pour donner de mon temps. Et j'ai reçu un appel téléphonique alors j'étais dans la voiture. Et la dame a pris l'information, puis elle me dit, pourriez-vous me donner votre numéro d'assurance sociale ainsi que votre numéro, d'assurance maladie? Je dis, écoutez, premièrement, je vous connais pas. Deux, je suis dans l'auto, j'ai pas ça par cœur, puis tout ça. Puis envoyez-moi vos coordonnées, puis je vous rappelle. Je reçois ces coordonnées, mon téléphone, tout le kit, c'est un Sius de l'est, non, du nord de la ville. Et son téléphone est là. Puis elle me demande encore les mêmes informations par courriel. Je sais pas s'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, là, mais j'ai toujours pensé que c'était pas vraiment une bonne idée de faire ça.
Mmh. Vous avez la bonne impression et c'est justement le bon réflexe qu'on doit adopter parce que autant au gouvernement que dans la population en général, il y en a qui n'ont pas encore compris le principe de partage d'informations sensibles. Et évidemment, on ne sait pas qui communique par téléphone. On peut faire toutes sortes de représentations par courriel puis dire qu'on est telle personne dans tel rôle et c'est pas vrai. Alors ça, c'est la meilleure façon, c'est de rappeler à l'institution en question qui vous demande ces informations-là et à ce moment, pour qu'il y ait trace de qui avec qui vous avez jasé. Ça, là, par contre, ça nous amène à la difficulté que souvent, dans la machine médicale québécoise, c'est difficile de se rendre jusqu'au poste de travail de la personne qui tente d'entrer en communication avec nous, tout autant qu'à Revenu Québec ou à l'Agence du Revenu
Canada.
Vrai.
Ça, c'est bien.
Mais il reste que la meilleure façon de procéder.
Bon.
Lui a écrit, puis elle n'a même pas répondu. Alors, ça vous donne une idée.
C'est mauvais signe.
Voilà,
c'est mauvais signe. Merci beaucoup, M. Guy. On va devoir se laisser. On prend un dernier appel avant de passer à la pause et aux nouvelles. C'est Blaise qui est au téléphone. Bonjour, Blaise.
Bonjour Marie-Claude, bonjour Steve.
Bonjour.
Moi, ça s'est passé seulement vendredi passé. On est allé sur mon compte, je ne sais pas comment, moi-même je suis comptable, et je vérifie mon compte tout en sur mon téléphone cellulaire, après que je suis rentré vendredi pour voir ce que j'ai fait. Et tout simplement, j'ai eu mon virement le jeudi et je vois quelqu'un a payé en mon nom à Google pour 72 $. J'ai rappelé à 21h, la banque, CIBC, ils ont dit non, et ils m'ont posé des questions, j'ai répondu, et j'ai fait annuler la carte et tout, et c'est ainsi que j'ai eu une nouvelle carte. En temps, on m'appelait de l'Afrique, du Mali, du Sénégal, et moi je suis ici, mes coordonnées sont dans la main des autres. Donc, c'est moi-même qui ai fait mes démarches à Equifax pour bloquer certaines choses, mais cela ne finit pas, ça continue. C'est très terrible ce qui arrive.
Oui. Steve, je te laisse répondre. Puis moi, en même temps, je viens de recevoir un communiqué urgent que je vais lire tout de suite après, Steve.
D'accord. Et ça m'est arrivé aussi, ce genre de situation-là, alors que j'étais en déplacement en 2015 et j'étais en aéroport. Et c'est la seule place que j'utilisais ma carte de crédit pour un kiosque pour acheter des souvenirs pour les enfants. Et après ça, dans le temps de Noël que c'était, on m'a appelé 2 semaines après pour me dire « Avez-vous fait des achats en Californie alors que j'étais nécessairement dans la région de Montréal? » Et c'est des fois des choses anodines comme ça que, oui, il y a des commerçants, si ce n'est pas juste des faussaires, qui vont prendre, qui vont capter le numéro de la carte de crédit et ça va se répandre dans un réseau de distribution. C'est vraiment de l'information qui se vend très bien et ils se dépêchent de faire ce passage d'information pour le temps que la carte soit, entre guillemets, valide, puisse s'en servir. Et à l'institution financière, bien, ça revient à cette institution-là, justement, de vous assister pour être capable de récupérer vos fonds parce que c'est protégé.
C'est pas tellement rassurant. Monsieur Blaise, merci beaucoup. J'espère qu'on a bien répondu à votre question. C'est la fin de cette heure déjà, mais il nous reste une petite minute ensemble, Steve, une minute et demie pour faire le tour de ça serait quoi les solutions pour que ce genre de situation ne se produise pas?
Bien, ce serait tout simplement, Marie-Claude, de mettre un ticket modérateur, mais que ça se mettons, je donne un exemple factice, là. Payer 1 $ pour consulter l'information. Donc, un mécanisme qui serait entre l'accès public et mettre la main sur l'information qui est réputée publique, mais par contre, qui bloquerait beaucoup d'automatisme, d'empêcher d'aller documenter ça. Et en deuxième lieu, je verrais très bien une composante de la Commission d'accès à l'information du Québec, qui sont les gardiens, en fait, de l'information, nos informations personnelles, qu'ils aient une équipe qui font du contrôle de qualité auprès des systèmes d'information du gouvernement du Québec et qui pourraient voir, anticiper en amont, qu'il y a des systèmes qui répondent peut-être pas ou qui sont pas éthiquement corrects à afficher de l'information. Et de cette façon-là, ça ferait une grande prévention, je trouve, envers les fuites potentielles d'informations au gouvernement. Est-ce que c'est déjà en place, c'est déjà en pensée? Je ne sais pas. À date, les informations que j'ai ne me permettent pas de le croire, mais ça serait un beau projet, je crois, à mettre de l'avant et ainsi prévenir le pire d'arriver et poursuivre surtout l'éducation de tous et chacun, autant dans la collectivité qu'au gouvernement, pour la sécurité de l'information.
Oui, parce que là, on parle du tribunal administratif du logement, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres sites gouvernementaux et autres. Où est-ce qu'encore là, il y a plein d'informations disponibles qu'on doit protéger? Oui, c'est ça, on va en reparler certains. Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité, un gros merci d'avoir participé à l'émission. On va s'arrêter le temps de la pause et des nouvelles. Et après, je veux vous entendre, chers auditeurs, sur comment vous vivez le manque de contact physique en ces temps de pandémie. C'est difficile de ne pas pouvoir se coller, de ne pas pouvoir s'embrasser. Je veux vous entendre. Donc, après cette pause, restez des nôtres.